aujourd'hui pour raconter la vie du Marquis de Sade. Nous sommes avec Stéphanie Genant, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle et bien connue des auditeurs de la compagnie où elle intervient régulièrement le jeudi. Après un essai sur le libertinage à la fin de l'Ancien Régime, publié en 2005, puis un autre sur Germaine de Staël en 2016, elle publie aujourd'hui une biographie inédite de Sade dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée, et que m'importe? Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison. Elle compose tous mes plaisirs dans le monde. Et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
L'extrait d'une lettre du Marquis de Sade à sa femme alors qu'il est en prison en 1783. Bonjour Stéphanie Genant.
Bonjour Mathieu.
C'est à cette façon de penser, entre guillemets, qu'on songe immédiatement à l'évocation du nom de Sade, cette manière d'immoraliste d'envisager le rapport au plaisir et à la douleur. Mais la lecture de votre biographie nous donne à voir un autre Sade, un Sade qui n'est ni plus ni moins qu'un homme comme les autres.
C'est ce que j'ai essayé de raconter, c'est ce qui est frappant, je suis pas la première, loin de là, à faire une biographie de Sade, il y a toute une tradition derrière.
Une biographie immense en général.
Biographie immense et qui font partie de l'histoire critique de Sade, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, bien sûr de les supplanter, elles font partie de la tradition, elles ont beaucoup apporté chacune, et elles sont indispensables. Par contre, elles vont toutes dans le sens, quand même, même si elles prétendent parfois le contraire, d'une singularité exacerbée de Sade, une espèce d'exception. Même si toutes disent « il faut normaliser Sade », il m'a semblé que peut-être ce travail de neutralisation restait à faire, et peut-être qu'il était temps aujourd'hui aussi, hein, parce que la première biographie, elle date de 1957, celle de Gilbert Lely. Là, on est presque 70 ans plus tard, donc peut-être que les plaies sont un peu apaisées dans la mémoire sadienne pour qu'on puisse rouvrir le dossier de manière un peu plus serein.
C'est donc un homme comme les autres, comme d'ailleurs le docteur Ramon en avait fait l'expérience en 1818, quand il avait eu l'occasion de déchiffrer l'énigme du crâne du marquis, en observant ce crâne en phrénologue, un crâne en tout point semblable à celui d'un père de l'Église.
Alors quand j'ai lu cette, c'est vrai, hein, c'est une véritable anecdote, Sade avait précisé dans son testament qu'il souhaitait absolument ne pas être autopsié, et le fils aîné qui est l'exécuteur testamentaire respecte ce vœu, donc Sade n'est pas autopsié dans un premier temps, et puis c'est suite à un hasard de travaux dans le cimetière de Charenton où il est enterré, que le médecin a l'occasion, 4 ans après sa mort, de faire cette autopsie. En découvrant cette histoire, pour moi c'était révélateur de tout ce qu'on a pu, cet épisode était révélateur de tout ce qu'on a pu projeté sur Sade. C'est-à-dire que le médecin lui-même qui a assisté le docteur Ramon, c'est celui qui constate la mort de Sade, donc il l'a connu en 1814, c'est lui qui vient constater le décès officiellement, et lui-même était persuadé que le corps, le squelette, le crâne, en plein essor de la phrénologie, serait en quelque sorte à part, anormaux, on dirait aujourd'hui. Et en fait, non. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça l'anecdote qui va nous aider à projeter la même chose sur toute la vie de Sade, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'il n'y a rien de si extraordinaire que ça.
Parce qu'aujourd'hui encore, même si on sait bien que le crâne de Sade ressemble à tous les autres crânes, on a le sentiment que c'est un être à part.
Oui, mais tout dépend de ce qu'on appelle un être à part. Si un être à part dans la société qui est la sienne, c'est un être qui a des frasques sexuelles marquées, ça n'a rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. En fait, l'anormalité, en un seul mot, de Sade, son exception, si vous voulez, elle dépend de la conception de l'humain qu'on se fait au départ. Si on est naïf, ou si on est même, on dirait, dans le déni de ce que c'est qu'un homme. C'est-à-dire que si on est un enfant encore, vous voyez, si on n'a pas une idée de la violence dont les hommes sont capables, aussi bien sur le champ de la sexualité que sur le champ de la vie en général, parce que c'est ce dont nous parle Sade, pas seulement de la sexualité, si on n'a pas une idée claire des pulsions violentes dont les hommes sont capables, forcément, on a tendance à faire de Sade un monstre, une espèce de forcené. En réalité, si on part, si on change d'échelle et qu'on part de l'idée que tous les hommes sont capables du pire, à partir de ce moment-là, la vie de Sade devient finalement relativement banale. Mmh. En tout cas, c'était l'angle que moi j'ai choisi.
Peut-être un peu moins prudente que la vie d'autres personnes. C'est peut-être là que se fait la différence. Alors, on a son crâne, ou plutôt on a un moulage de son crâne. Vous le reproduisez d'ailleurs dans votre biographie, mais on n'a pas tellement d'images de qui était Sade. On ne sait pas très bien à quoi il ressemblait. Il y a juste un portrait que d'ailleurs vous reproduisez sur la couverture. Ce portrait est-il fidèle? On a l'impression d'un jeune homme très beau.
Alors ça, c'était une grande surprise pour moi d'ailleurs en travaillant à cette biographie, en lisant les correspondances. Je n'avais pas idée que Sade était si joli, comme on le dit. C'est l'adjectif que tous ses proches utilisent. Apparemment, il était
joli
très
garçon.
Beau. Joli garçon, mignon, blond aux yeux bleus. C'est pas du tout, là encore, le fantasme qu'on peut avoir. Si vous faites un sondage sur 100 personnes, ils vous diront qu'ils imaginent que Sade est brun, quoi. Là encore, comme toutes ces héroïnes sont brunes. Enfin, tout ça, c'est des stéréotypes. Le brun étant quand même plus poivré, le blond plus angélique, etc. Sade est blond aux yeux bleus, mignon, etc. À la fin de sa vie, au milieu de sa vie, prend beaucoup de poids, son corps change, etc. Mais il reste assez mignon. En revanche, on n'a pas d'image de lui, et cette image-là, personne n'est sûr que ce soit de lui. Donc moi, je ne voulais pas qu'il y ait d'image en couverture. C'est pas mon choix, c'est le choix de l'éditeur. Moi, dans mon choix, mais bon, je peux comprendre, ce n'était pas très commercial, ça aurait été de mettre le crâne en couverture. Parce que ça, c'est la vraie image. Et en plus, elle dit quelque chose, c'est-à-dire ce crâne normal, en quelque sorte. Sade, il est comme nous, il a un crâne.
Alors il lui manque quand même la petite vérole sur la couverture du livre parce qu'il était atteint de cette maladie-là. Et puis évidemment au fur et à mesure de sa vie, il va se transformer, devenir beaucoup plus adipeux, beaucoup plus gros. Et il a été représenté alors sous cette forme-là, mais bien plus tard, après ces années de détention qui l'ont détruit physiquement.
Oui, et au cinéma, il a aussi été beaucoup incarné, pardon, Sade, je me souviens, enfin on a tous en mémoire par exemple Daniel Auteuil dans le film de Benoît Jacquot, je me souviens dans les années 90. En fait, c'est un contresens physique total, hein. Le Daniel Auteuil des années 90, qui est un homme de 50 ans plutôt beau, et pas du tout le Sade de Charenton qu'il incarne. Il y a eu un projet qui n'a jamais abouti, qui aurait... fait jouer le dernier Sade, enfin celui entre les 20 dernières années, par le Marlon Brando tardif, celui qu'on voit déjà un peu dans Apocalypse Now, qui est déjà un peu parti dans sa tête et dans son corps. Ça, je crois que ça aurait été un excellent casting. C'est comme ça, si on pense à Sade, il faut penser au dernier Brando. Je pense que là, on a une image qui s'approche assez de la réalité.
La compagnie des auteurs sur France Culture et nous faisons la biographie du Marquis de Sade avec Stéphanie Genan. Marquis de Sade né en 1740 à Paris, à l'hôtel de Condé qui se trouvait à l'époque à l'emplacement de ce qui est devenu aujourd'hui à peu près le carrefour de l'Odéon. Né donc le 2 juin 1740. Il s'appelle Donatien Alphonse François, mais il est aussi connu sous les prénoms de Louis Aldonze Donatien. Ça, c'est important, le prénom d'Aldonze, parce que ça dit beaucoup sur les origines méridionales de la famille de Sade, puisque Aldonze est un vieux prénom méridional.
Oui, et c'est un prénom féminin, en plus. C'est ça qui est assez intéressant, chose que j'ai découverte dans les recherches pour la biographie. Sade est effectivement originaire du sud, de la Provence, du village de Lacoste, aujourd'hui, à côté des Baux de Provence. Et c'est pour lui quelque chose de très important, cette mémoire, ces paysages, ces saveurs aussi. Donc, humaniser Sade, c'était aussi le ramener dans un territoire, des racines qui sont les siennes, même si finalement il passe quand même 30 ans de sa vie hors de cette Provence-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le jour du baptême à Paris, de l'enfant, le curé se trompe de prénom. Pour moi, c'était déjà une espèce de malentendu, de cristallisation du fait qu'on comprend. Évidemment, à Paris, Aldonce, personne ne comprend ce prénom. Et puis, lui-même est baptisé sous une fausse identité, ce qui va ensuite, dans sa vie, lui jouer des tours. Hein, parce que pendant la Révolution, on plaisante plus du tout avec les patronymes. Et du coup, Sade va se retrouver en danger, presque de mort, pendant la Terreur, parce que on va plus savoir qui il est, parce qu'on ne retrouve plus l'état civil. Donc ça, c'est aussi très... Il n'y a pas d'image chez Sade, et le nom lui-même pose problème. Hein. Ce qui montre, c'est vraiment très difficile de savoir qui est cet homme, et je ne prétends pas d'ailleurs l'avoir trouvé moi-même, hein, mais...
En tout cas, la lignée, elle existe. Les deux Sade, c'est une famille noble. Son père, Jean-Baptiste, est un ami de Voltaire. Il y a d'ailleurs des ressemblances entre le père et le fils, qui d'ailleurs avaient une relation d'affection très forte.
Oui, oui, la figure paternelle a beaucoup compté pour Sade, puisque dans sa cellule à Charenton, où il finit sa vie, il possède quelques tableaux, dont celui du père, qui nous est resté aujourd'hui. Le père, alors qu'il n'a pas toujours été très aimant pour son fils, c'est ce qu'on voit, mais qui incarne une espèce de liberté qui a sans doute fasciné le fils, unique, hein, donc, et puis une espèce aussi de philosophie. Hein, le père écrit, le père est un sage, le père est un philosophe, au meilleur sens du terme. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans cette figure paternelle et dans ce qu'elle peut léguer à Sade, c'est une espèce d'aristocrate non attaché au patrimoine. Un aristocrate non pas, comme on l'a aussi beaucoup dit...
Il a d'ailleurs dilapidé son patrimoine.
Voilà. Un aristocrate, on a dit, Sade, c'est arc-bouté sur les privilèges. Pas du tout. Au contraire, c'est une famille dont le père déjà, alors que ça se fait pas du tout à l'époque, hein, le père déjà était encombré par le patrimoine, par les châteaux, par le nom. Lui, se serait rêvé sans bagages, pouvant partir dans toute l'Europe. Alors que quand on est noble, à l'époque, c'est lourd, en fait. Mmh.
Donc c'est un homme libre, c'est aussi un libertin, éclaboussé par des affaires douteuses, comme ce sera le cas aussi pour son fils.
Oui. Alors, affaire douteuse, affaire avec des amants, hein, c'est la pauvre madame de Sade qui, elle, était plus à plaindre dans l'affaire, hein, puisque son mari...
Comme souvent, les madames de Sade sont assez à plaindre.
Alors, la saison 2 est plus intéressante. La saison 1, sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations, elle nous montre quand même, effectivement, une femme qui, elle, est une vraie aristocrate, hein, pour qui il faut respecter le nom, ne pas l'éclabousser. Elle va beaucoup souffrir avec son fils, mais elle souffre un peu avec son mari, qui, en fait, là encore, j'aurais tendance à dire, fait ce que beaucoup de gens de son milieu font, c'est-à-dire, voilà... goûte à tous les mets du buffet, on va dire ça comme ça.
Alors la mère justement, Marie-Éléonore, c'est un peu le contraire de son mari. Autant lui voyage, brille, écrit, et donc libertin comme on l'a dit, autant elle est discrète, elle est même un peu taciturne.
Oui, alors d'autant plus qu'on a très peu de témoignages, elle a très peu écrit, ou alors il nous reste très peu de lettres, donc c'est difficile de s'en faire une image très précise, et le peu de lettres qui restent d'elle donne effectivement l'image d'une femme très raide, qui d'ailleurs se retire de la vie sociale, entre dans une espèce de cellule religieuse assez tôt. Enfin, une femme vraiment un peu hors du temps.
Qui terminera au Carmélite de Saint-Jacques, rue d'Enfer,
ouais,
ça ne s'invente pas.
Ça m'a fait rire un peu.
Alors donc, ce petit Sade grandit donc en Provence, on l'a dit, d'abord chez sa grand-mère, ensuite chez son oncle. Ce sont des années qui se déroulent sous le signe du bonheur, de la légèreté. Et puis, le retour à Paris, à l'âge de 10 ans, c'est peut-être déjà un petit peu la perte de l'innocence au moment où il entre au collège Louis-le-Grand, Stéphanie Genon.
Oui, alors là encore, on n'a pas beaucoup d'éléments. J'ai cherché, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Le peu d'éléments qu'on a laisse effectivement craindre des années assez sombres. Je n'ose imaginer ce qui se passait au collège Louis-le-Grand en 1750. Je crois des choses assez peu orthodoxes et j'ai peur que ça défait toutes ces éducations là-bas, y compris celles qu'il aurait peut-être dû faire plus tard. Hein. J'en sais rien, mais tout laisse à croire qu'il a quand même vécu des expériences assez banal à l'époque, mais tristement banal, hein, d'abus sexuels, enfin de choses comme ça.
Avec des instituteurs immoraux.
Immoraux, je pense, ouais.
Donc ça, c'est une intuition que vous n'avez pas vraiment trouvé de documents.
Non. Mais quand on voit ensuite le sort réservé, alors évidemment, ça va faire bondir des gens qui vont dire que je suis dans la projection, mais objectivement, même dans les 120 journées, il est beaucoup question des jeunes gens qui très tôt rencontre des figures religieuses qui abusent d'elle. Enfin, ça m'a frappé en lisant récemment Les 120 journées. Je pense que c'est ce que Sade a aussi tristement vécu. Il quitte la Provence, il quitte l'enfance. Il rentre dans la vie, dans tout ce qu'elle peut avoir de plus sombre en 1750.
Alors, ce qui peut le rattacher un peu à l'enfance, c'est qu'il est très entouré par beaucoup de femmes, notamment les conquêtes de son père, parce que son père était visiblement quelqu'un de très attachant, en tout cas pour ses maîtresses. Et du coup, ces femmes reportent un petit peu de leur amour sur ce garçon. Vous dites qu'il grandit dans une sorte de maternité substitutive et aussi dans l'amour. Il y a cet aspect-là aussi chez Sade, beaucoup d'amour.
Oui, c'est marrant, parce qu'il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ou lectrices aussi, en lisant mon texte, ce Sade a été aimé. Mmh. Et oui, moi, ça m'a frappé.
Toute sa vie, d'ailleurs.
Toute sa vie, et par des femmes. Il a été aimé, en plus, là, en l'occurrence, à un âge où c'est très important de l'être, hein, cet adolescent mignon... voilà, entouré de tendresse, qui n'est pas la tendresse de la mère, ça c'est sûr, mais il y a effectivement des femmes qui ont l'âge d'être sa mère, qui aiment le père, qui aiment donc celui qu'elles appellent notre petit. Donc il a plusieurs mères en fait, hein, qu'il bichonne, on dirait couramment. Donc il reçoit beaucoup de tendresse. Hein. Ouais. C'est pas du tout un. Ça peut être étonnant.
Et il en rend aussi, parce que c'est un grand romantique. Alors là encore, ce qu'on apprend un petit peu dans votre biographie, c'est le côté très sentimental du jeune Sade, qui là encore, sans doute, va le rester.
Oui, c'est quelqu'un, là encore, moi, quelque chose que j'ai découvert. On dit, oui, mais Sade n'a jamais ni été aimé, ni aimé. Mais pas du tout, c'est l'inverse. C'est effectivement quelqu'un qui aime trop, qui ne dose pas du tout ses élans affectifs, alors qu'il est sans doute un tout petit peu dans l'excès, mais qui a besoin d'aimer et d'être aimé de manière extrême, en fait, très
c'est
tôt.
C'est peut-être même le projet de sa vie, parce que à 20 ans, vous dites qu'il rêve d'une existence neutre, pas tellement de célébrité. Il rêve de vivre bien, de s'amuser sans se ruiner, ni se déranger. Peu d'amis, peut-être point même peut-être, car il n'en existe pas un de véritablement sincère, écrit-il à l'époque dans sa correspondance.
Alors ça, c'est le Sade de, à 20 ans qui est déjà très mélancolique. On ne sait pas pourquoi. Pour lui, la vie s'apparente déjà, il ne sait pas à quel point ça va être vrai, à une espèce de retraite, idéalement. Alors qu'ensuite, dans sa vie, il aura envie d'être connu, mais pour de bonnes raisons. Mais pour lui, c'est vrai que la vie idéale, c'est une vie un tout petit peu en clair-obscur. Alors, une vie un peu tranquille, quoi, si vous voulez.
Ce qu'il aura pendant peu d'années. Il fréquente beaucoup le théâtre, il fréquente aussi beaucoup les proxénètes. C'est déjà quelqu'un qui n'a pas une très bonne réputation, joueur, prodigue, débauché même. Ça commence à cet âge-là.
Oui, ben, c'est tout... Sade appartient, si vous voulez, à un milieu social qui effectivement pratiquait régulièrement les soirées un peu poivrées, les petites maisons, comme on les appelait, hein, dans les faubourgs, les lieux, les prostituées. Sade l'a dit lui-même plusieurs fois, il a de forts besoins sexuels, donc il y a un désir chez lui ardent qui trouve à se satisfaire assez naturellement à l'époque auprès de courtisanes. En même temps, là encore, rien que de très banal à l'époque. Il y a aujourd'hui toute une littérature de rapports de police qui montre en fait la relative banalité de ces pratiques-là. Donc il n'y a rien. Alors lui, il fait partie de ceux qui sont peut-être les plus ardents de ce groupe de gens, mais voilà.
Alors d'ailleurs, il cherche à se marier. Il faut dire qu'il est un petit peu obligé parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent chez les Sade et ce serait bien de faire un beau mariage. En tout cas, c'est ce que le père entend faire et proposer à son fils.
Alors c'est vrai que c'est là que l'histoire commence à se corser entre le père et le fils. Le père est obsédé par la banqueroute et donc il faut que le fils se marie pour combler les dettes aussi du père, alors que le fils est assez peu soucieux de sa propre carrière, comme on disait, qui devait être logiquement une carrière militaire. Et le père force le mariage du fils, comme là encore ça se fait couramment, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, plus couramment encore pour les femmes, mais Sade se marie du coup contre son gré.
Et voilà ce qu'il dit de sa femme dans une lettre à son oncle, l'abbé de Sade, en 1765.
Je serais sans doute beaucoup plus heureux si j'aimais ma femme. Mais suis-je le maître de ce sentiment-là? J'ai fait l'impossible, mon cher oncle, pour me vaincre sur la répugnance qu'elle m'a inspirée dès le premier moment. Je n'en ai jamais été le maître. Qui sut mieux que vous comment j'ai été marié, dans quelles circonstances? Était-il temps de me dédire quand je suis arrivé à Paris? Tous les préparatifs étaient faits. Le roi avait signé chose qui n'a jamais été sans la présence du prétendu, remarque faite par tout Paris. Eh bien, j'ai fait ce qu'à la vérité un honnête homme ne devrait jamais faire. Ma bouche a promis ce que mon cœur ne pouvait tenir. Et cessant de me croire engagé parce que je ne l'étais que par la forme, j'ai cru que tout mon devoir consistait à cacher mes vrais sentiments.
Une lecture par Daniel Mesguich dans la compagnie des auteurs. Alors cette idée, Stéphanie Genant, qu'on n'est pas le maître de ses émotions et donc pas totalement responsable aussi de ce qu'on ressent, de ses sentiments, c'est quelque chose qui revient très souvent chez Sade.
Oui, ça tient à une conception, on va dire, un peu naturaliste de la morale. Sade pense que c'est la nature, comme il le dit lui-même, qui agit en nous et que nous ne faisons que nous plier à ce que la nature nous a donné. Elle peut nous avoir donné un tempérament, elle nous a donné des passions et cette énergie qu'elle nous a léguée, qui prend des degrés différents selon les individus, nous n'avons pas le choix que de nous y plier. Nous ne sommes donc pas totalement libres, si vous voulez y aller par là.
Mais alors la relation avec sa femme, dont on a entendu un petit peu la couleur dans cette lettre, elle va évoluer. Là, on est au début de la relation. Et ensuite, cette femme, eh bien, finalement, elle va devenir très importante pour lui. Elle va toujours le soutenir.
Oui, alors c'est encore... ça contrevient au cliché du Sade misogyne et qui aurait été détesté par les femmes. Je veux bien qu'il y en ait une qui se soit aveuglée, mais il se trouve qu'il y en a quand même beaucoup trop qui l'ont aimée. Et René, Pélagie, donc son épouse, au début, est son épouse contre leur gré à tous les deux. Donc forcément, l'amour ne peut pas naître d'une union mal assortie, comme on dit à l'époque, d'une union arrangée. Mais le couple Sade va trouver un équilibre affectif et dans lequel René va, c'est vrai, s'investir jusqu'à devenir une figure essentielle. Et on voit Sade l'aimer fortement, et René aussi. Pour René, il y a une espèce d'engagement sacrificiel, un peu christique, hein, quelque chose de très chrétien, en tout cas, dans tout ce qu'elle va donner à Sade de tout le temps, enfin les 20 premières années de leur mariage. Ensuite, ils vont divorcer.
Hein, mais après sa sortie de prison.
Après sa sortie de prison. Mais justement, on se dit pourquoi a-t-elle autant fait pendant toutes ces années où elle lui apporte tout, elle dans une abnégation.
Où elle accepte aussi qu'il soit amoureux de sa sœur à elle.
Oui,
ce qui n'est quand même pas rien. Et qu'ils partent ensemble, tous les deux, en Italie.
Mais c'est ça que je trouve génial dans cette René, qui là encore est la découverte de beaucoup de lecteurs qui me disent que c'est vraiment le personnage le plus surprenant. En fait, elle l'aime vraiment. Et quand on aime l'autre, on le prend comme il est, c'est-à-dire on le prend aussi avec ses frasques. Et si vous aimez quelqu'un qui aime votre belle-sœur, faut être très chrétien pour ça, hein, faut avoir fait un gros travail sur soi.
Est-ce qu'il l'aime autant ?
Oui. Il est plus égoïste, c'est sûr, il est beaucoup plus égoïste. Elle fait tout pour lui, elle lit ses livres par exemple. En plus, c'est pas du tout une femme dans le cliché féminin de l'époque, etc. Elle a des idées sur la religion, sur la politique qui sont très, très modernes, René. Elle se travestit en homme pour le faire évader, enfin, vraiment quelque chose d'incroyable. Donc lui, il l'aime aussi, mais il a besoin d'elle, alors qu'elle, elle l'aime gratuitement. Elle l'aime par pure générosité. Elle l'aime, de ce point de vue-là, de manière plus chrétienne, si j'ose dire. Voyez, donc elle prend l'homme avec tout ce qu'il est.
Oui, alors il y a un autre personnage extraordinaire, c'est le personnage de la présidente, donc la mère de René Pélagie, la belle-mère du marquis de Sade. Il y a une relation extrêmement complexe, un petit peu triangulaire, entre ces trois personnages.
Ah oui, l'autre femme de sa vie, si j'ose dire, c'est sa belle-mère, donc la mère de René. Donc là encore, tout le monde le sait, hein, les Sadiens le savent, il y a une haine pour cette présidente de Montreuil, a priori, qui est un peu la vulgate biographique.
De Montreuil, c'est le nom de la famille.
Oui, pardon. Oui, c'est le nom de jeune fille de sa femme, donc la présidente. On dit il la déteste, ok. Mais en fait, c'est plus compliqué. Et une haine aussi spectaculaire ne pouvait que cacher, c'est vrai, une relation oedipienne assez marquée. Alors là encore, qui n'est pas propre au Sade Montreuil, hein, mais il se trouve qu'entre la belle-mère et le gendre, il y a une fascination réciproque, et la belle-mère est vraiment à l'initiative de cette séduction. Elle tombe amoureuse de son gendre, et donc elle dit à son gendre « Je suis la femme qu'il te faut ». Elle le dit clairement dans certaines lettres, alors sans que ça aille jusqu'à des actes, hein, c'est une espèce de fantasme, on en reste là. Le gendre y trouve aussi son compte, mais la malheureuse Renée est au départ totalement occultée par ce couple fantasmatique créé par sa propre mère, hein, qui s'auto proclame l'épouse brillante et digne de son gendre.
Jusqu'à ce que arrivent les divers scandales de plus en plus forts qui vont faire que la belle-mère ne va plus soutenir son gendre. Il faut raconter le premier scandale, c'est celui de l'affaire d'Arcueil qui arrive le 3 avril 1768. De quoi s'agit-il, Stéphanie Genon?
Alors c'est l'affaire qui marque, je l'ai appelé le tournant d'Arcueil, qui marque effectivement une étape tragique dans la vie de Sade, parce que rien ne sera plus jamais comme avant, comme on dit couramment après cette affaire. Il s'agit en fait au départ d'une banale affaire de prostitution. Il paye une fille qu'il embarque avec lui. Vous savez, la prostitution avait une ampleur au XVIIIe qui n'est pas du tout la nôtre aujourd'hui. Hein. Il y a toute une série de femmes misérables qui vendaient leur corps partout. Enfin, c'est quelque chose de très très important dans le paysage urbain, des grande ville, hein, je recontextualise un peu ça. Donc ça déplace des victoires à Paris, il embarque avec lui une femme qu'il paye pour l'emmener dans sa petite maison à Arcueil, au sud de Paris.
C'est une garçonnière, il en a plusieurs.
Il en a plusieurs, voilà. Et où régulièrement il emmenait des filles, des hommes aussi. Voilà. Et donc cette affaire est une affaire banale, sauf que c'est le jour de Pâques, enfin le vendredi saint plutôt exactement, et que ça demande à cette malheureuse qui s'appelle Rose Keller de jurer, de blasphémer, ce qui pour elle est impensable. Et puis il y a toute une série de pratiques, de fantasmes sexuels sadiens qu'il déploie ce soir-là, flagellation, sodomie, blasphème, on a en gros la trilogie sadienne, qui heurte Rose Keller, qui s'échappe par la fenêtre et qui ensuite porte plainte, mais porte plainte pour des sévices de cruauté, de prétextant que Sade l'aurait attaqué au couteau, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le fantasme sexuel de base et qui, surtout, relèvent désormais de la justice, alors que flageller une prostituée relevait d'une pratique sexuelle privée qui ne vous exposait à aucune peine. Mmh. Donc Sade se trouve à ce moment-là jugé, condamné, et aux yeux de sa belle famille et de la présidente de Montreuil en particulier, il se trouve un personnage à partir de là scandaleux.
Même et si... dans le grand public aussi, parce que tout le monde connaît cette histoire.
Alors ça, mais Michel Delon l'a très bien dit dans son édition de La Pléiade. Cette affaire d'Arcueil, elle est le moment où Sade se voit de son vivant dépossédé de sa propre vie, parce que la rumeur va enfler et Sade va devenir l'archétype du libertin monstrueux, de l'aristocrate qui abuse de ses droits. Il devient en fait, il prend pour les autres, il prend pour l'exaspération d'une classe sociale qui, il est vrai, avait tous les pouvoirs, mais il en faut un qui paye pour tout le monde. Politiquement, à l'époque aussi, on cherche à mater la noblesse. Donc Sade va devenir, il aura beau être innocenté, il va l'être. Hein. De toute façon, à partir de ce moment-là, il est coupable.
Mais peut-être parce que Sade déteste plus que d'autres l'hypocrisie, la dissimulation et les faux fuyants. Et donc, il estime que son mode de vie ne doit pas être caché. Même si c'est une personnalité, vous le dites dans votre biographie, très modérée, il n'entend pas dissimuler qui il est.
Non, c'est vrai. Mais pour lui, ce qu'il a fait à Arcueil relève de sa vie privée. Et en un sens, il a raison. On ne peut pas, à l'époque, on n'enferme pas un homme parce qu'il a flagellé une prostituée. En revanche, le blasphème est une faute beaucoup plus inquiétante. Et ce que lui reproche Rose Keller est faux. Donc, Sade, effectivement, ne se pliera jamais à l'ordre social parce qu'il le trouve corrompu. Mmh. Ça, c'est un fait. Mais de fait, il est coupable de rien à Arcueil.
Alors, il y a après toute une série d'autres affaires, et notamment l'affaire de Marseille. C'est un petit peu la même chose, mais cette fois, la présidente considère qu'il est allé trop loin et que donc, il faut l'enfermer. Là encore, il va être jugé puis acquitté. Mais par une lettre de cachet, elle va faire enfermer pour quasiment 30 années, alors avec des interruptions, hein, on va le voir, son gendre.
Alors pourquoi le fait-elle enfermer? C'est la question qu'on peut se poser. C'est quand même un cas unique d'un auteur qui passe 27 ans de sa vie, enfin en tout cas les 17 ans, parce que les 10 dernières années, c'est plus la lettre de cachet, c'est Bonaparte, c'est autre chose. Mais jusqu'à la Révolution, c'est un auteur qui est enfermé par sa belle-mère. Alors pourquoi? Pas tant parce qu'il fait scandale et qu'il entache le nom de ses petits-enfants.
Peut-être un peu quand même.
Un petit peu. Mais c'est aussi parce que, entre-temps, René a reconstitué le couple avec Donatien. Et donc, pour la belle-mère, c'est aussi, en grande partie, une vengeance.
Donc, jalousie par rapport à sa fille.
En partie. Mmh. C'est très mêlé, les motifs. Mais c'est aussi une manière de briser le couple. Parce que, de toute façon, le couple ne pourra plus exister.